Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce matin. Ce matin, j'aimerais vous entretenir sur un sujet qui, des fois, peut nous poser certaines questions, à savoir, croyez-vous que le hasard existe? Croyez-vous que le hasard existe? Alors, on va regarder ensemble ce que les Écritures disent à propos de ce sujet-là. Alors, dans le deuxième livre de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le livre de l'Exode, on voit que Dieu a délivré son peuple qui était esclave en Égypte depuis 430 ans. Le mot Exode, ça veut dire une fuite en masse d'une population. Quand on parle de une exode, c'est une grosse gang de gens qui fuient un endroit pour aller ailleurs. Puis c'est exactement ce qui est arrivé avec Israël. Puis selon ce que les Écritures nous disent, il y a 600 000 hommes hébreux, et ça, c'est sans compter les femmes et les enfants, qui ont quitté l'Égypte. Alors, imaginez-vous, 600 000 hommes. Il y en a beaucoup là-dedans qui étaient mariés, là. Alors, si on en met, mettons, c'est que le double, ça fait 1 200 000. Il va y avoir quelques enfants dans ça, là. Alors, vous pouvez vous imaginer que le groupe qui a fui l'Égypte, c'était pas juste une petite poignée, là. Il y avait du monde. Tasse-toi de là qu'il y avait du monde. Alors, ça représente facilement des millions de personnes qui, au total, ont quitté l'Égypte. Puis le livre de l'Exode nous décrit aussi les 10 plaies que Dieu y s'est servi pour que les Juifs puissent quitter l'Égypte. Ça, vous avez tous déjà lu ça, là. Les 10 plaies qu'a l'Égypte. On a même fait des films sur ça. Alors, après l'exode des Israélites hors de ce pays-là, Dieu a donné l'ordre à son peuple de construire un tabernacle. Alors, Marlène, si tu veux nous donner une image là, du tabernacle. À l'extérieur. Alors, ça, c'est l'image qu'on avait de ce que Dieu avait demandé aux Israélites de me construire. Alors, le tabernacle, c'était une grande tente qui servirait de lieu de culte. Alors, les Israéliens, ils allaient avoir un culte dans cet endroit-là. Là. Il y avait des souverains sacrificateurs qui étaient là, on offrait des bêtes, puis toutes sortes de choses. Alors, le tabernacle était constitué de deux parties. Là, on va aller en dedans. Alors, on voit, il y avait une partie en avant et une partie arrière. Dans la partie avant, on voit qu'il y avait un chandelier d'or. Il y avait la table des pains de proposition. Puis l'autel où on brûlait mes parfums. Mais ça, c'est toutes des choses que vous savez, je suis convaincu, mais c'est juste pour qu'on se situe un petit peu. La partie arrière, ça, c'était le lieu très saint, ou encore le saint des saints, comme c'était appelé. Et entre les deux, il y avait un rideau. Ce rideau-là, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, les Écritures nous disent que le voile du temple a été déchiré, mais curieusement, de haut en bas. Alors, c'est comme si Dieu venait de dire, là, vous allez avoir une libre entrée en ma présence, puisque le Seigneur Jésus-Christ est venu payer la dette de vos péchés, évidemment pour ceux qui y croient. Et puis, dans le lieu très saint, au fond, le souverain sacrificateur entrait là uniquement une fois par année. Alors, ça, c'était la façon de me procéder. Dans le lieu très saint, au fond, il y avait un seul objet, celle-ci. Ça s'appelle l'arche de quelle alliance? L'arche de l'alliance, c'était un coffre. C'était un grand coffre recouvert d'or. Puis dans ce coffre-là, à l'intérieur du coffre, il y avait trois choses. Est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi? Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, la manne qui avait servi à nourrir tout le peuple d'Israël lorsqu'il était dans le désert, et puis les tables des commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Alors ça faisait partie en dedans du coffre. Sur le couvert de l'arche, il y avait aussi, comme on le voit, deux anges d'or. On appelle ça des chérubins. Puis le couvercle était considéré comme le trône de Dieu. Alors imaginez-vous que ce que vous voyez là, aux yeux des Juifs, là, c'était l'objet le plus sacré de toute l'histoire religieuse juive. Il n'y avait rien de plus sacré que cet objet-là. Alors mettez-vous dans la peau là, des Juifs. Le couvercle, là, c'était là où Dieu résidait. C'était le trône de Dieu. C'était représentatif. Et c'est ça que Dieu avait demandé aussi. C'est ça que ça représentait. L'Arche de l'Alliance avait aussi une signification militaire pour que les Juifs. Dans le sens que quand ils sont allés se battre, parce que lorsque les Juifs ont quitté l'Égypte, ils ont entré dans le désert, ils ont dû se battre pour conquérir le pays que Dieu leur donnait, c'est-à-dire Canaan. Alors, les Juifs ont dû aller dans différentes régions pour conquérir le pays que Dieu leur avait donné. Alors, pour faire ça, les souverains sacrificateurs amenaient l'arche. Il y en avait un qui se tenait là, l'autre là. Ils traînaient ça avec les bras, puis ils se promenaient avec l'arche que de Dieu. Puis partout où s'y allait pour conquérir les différentes peuplades sagavoisinantes, ben lorsque il amenait l'arche, le trône de Dieu, ça accompagnait l'armée d'Israël et cette armée-là était victorieuse. Alors, c'est une des choses qui faisait que les Israélites ont conquéri le pays de Canaan parce que dans la bataille, Dieu combattait pour eux. Mais il y avait un problème avec ça. Là, vous allez dire, c'est quand même assez étonnant de dire qu'il y avait un problème si Dieu est là avec eux autres puis qu'il les aide à combattre puis tout ça. Mais le problème avec ça, c'est que le peuple avait comme fini par accorder la victoire au combat à l'arche, c'est-à-dire à cet objet-là, plutôt qu'à Dieu. Voyez-vous comment l'être humain est? On est tous issus d'une religion où que ça avait de l'importance. Il y en a, c'était les chapelets. Il y en a, puis c'est encore ça pour beaucoup. Il y en a, c'est de mettre un crucifix sur le dessus de la porte. Il y en a toutes sortes de choses de même. Les gens sont comme, sans savoir, idolâtres. Ils vont mettre une confiance dans des objets qui, finalement, ne disent pas grand-chose. Et ça a été le problème avec les Israélites concernant l'arche. Mais il faut bien comprendre que ce que Dieu avait dit, c'était pas faux, c'était vrai. Mais d'attribuer la victoire à la guerre à cet objet-là plutôt qu'à Dieu, là, on fait erreur. Vous me suivez toujours, là? OK. Alors, 1 Samuel 4, si vous voulez tourner là. 1 Samuel chapitre 4. Dans 1 Samuel 4, il nous est raconté un incident où les Israélites sont allés se battre contre les Philistins, mais ils n'ont pas amené l'arche. Alors là, il y a eu c'est une petite indifférence. Alors le résultat de la bataille, ils ont subi une défaite avec une perte de 4000 hommes. Ils ont automatiquement attribué leur échec à Dieu parce qu'ils s'attendaient que l'arche les sauve. Mais l'arche a donc été, suite à ça, à cet événement-là, l'arche a été ramenée au camp israélite. On va lire 1 Samuel chapitre 4, le verset 1. C'est écrit, « La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Il combattait près d'Ében-Ézer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au peuple et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi? » Ça parle un petit, tu sais, Jean-Marc, le dimanche passé, il nous a amené un message sur les pourquoi. Les pourquoi que les êtres humains ils vont se poser souvent. Alors ici, il y en avait un sérieux de « Mais pourquoi? » Pourquoi, au verset 3, l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Comment ça qu'on n'a pas gagné? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? » Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en est pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. » Alors, les Philistins, c'était pas des fous, là. Ils savaient très bien ce qui s'était passé dans l'histoire du peuple d'Israël, que Dieu avait mis sa main pour les faire sortir de ce pays-là d'une façon extraordinaire, par toutes sortes de miracles, par toutes sortes de choses, là. Alors, les Philistins, ils disaient, on est mal pris, là. Si Dieu est revenu dans le camp des Israélites, là, on est fait, là. Alors, en ce temps-là, Israël était dirigé par le sacrificateur Élie. Élie y avait servi le peuple pendant 4 décennies, une quarantaine d'années. Puis l'ennui avec Élie, par exemple, c'était ses deux fils, Ophni et Phiné, qui eux aussi étaient des sacrificateurs, mais qui n'avaient pas la même piété que leur père. Ils n'avaient pas respecté leur vocation sacrée pour servir Dieu. Ça, c'est une chose qu'eux avaient fait. Et la chose que Élie n'avait pas fait, ça a été de discipliner ou de réprimander ses fils. Chose qu'il aurait dû faire, mais il l'a pas fait. Dieu même, il lui a dit dans 1 Samuel 2, 29, c'est écrit, « Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël ?» Mon peuple. » Alors Dieu, quand il avait vu ça, il a donc averti Élie par l'intermédiaire d'un prophète que le jugement allait tomber sur sa maison. On lit ça dans 1 Samuel 2, versets 30 à 34. « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que la maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et c'est exactement ce que les fils d'Élie faisaient. Ils méprisaient Dieu par leur comportement. Verset 31. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Imaginez-vous le message qu'Élie vient de recevoir. Est-ce qu'Élie croyait ce qu'il venait d'entendre? Évidemment. Est-ce que la prophétie s'est réalisée? Évidemment. Parce que quand Dieu dit une chose, la chose s'accomplit. Ça, c'est important de méditer ça lorsqu'on lit la parole de Dieu. Quand Dieu dit une chose, la chose va s'accomplir. Si je n'obéis pas, si j'ai un comportement qui ne va pas en harmonie avec ce que Dieu demande, est-ce que je devrais m'attendre à ce qu'on me tape ses mains? Probablement. Dieu, il fait ce qu'il veut, il va servir du moyen qu'il veut, il va prendre les gens qu'il va vouloir, mais si je désobéis, il faut que je m'attende peut-être à être corrigé. Pourquoi? Quand vous aimez vos enfants et qu'ils faisaient une gaffe, qu'est-ce que vous faisiez? Hey James, tu as dû passer par là, toi, des fois. Hein? Non. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nos enfants font des choses croches, on les corrige. Si on ne le fait pas, c'est quasiment un signe comme quoi qu'on ne les aime pas. Alors, arrange-toi tout seul, tu verras ce qui va arriver. Alors, quand les Israélites, heureux que l'arche soit présente au milieu d'eux, parce que là, ils sont allés chercher l'arche à Silo, ils l'ont ramenée au camp, alors pour eux autres, c'est réglé. On est correct. Il n'y aura pas de problème. Alors là, ils étaient confiants. Ils sont repartis confiants à se battre contre les Philistins avec, comme souverain sacrificateur, Ophni et Phiné qui accompagnaient l'arche. Sauf que ce coup-là, pensant que Dieu y est avec nous, on a ramené l'arche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont subi une défaite épouvantable. Même si l'arche était avec eux. Alors, ce coup-là, c'est 30 000 hommes israélites qui sont morts. Puis avec eux, ce que Dieu avait dit à Élie, ses deux fils, Ophni et Phiné, sont morts avec eux autres. Puis par-dessus le marché, ce coup-là, les Philistins se sont emparés de l'arche de l'Alliance. Ce qu'on a vu tantôt, ça a passé des mains des Israélites aux mains des conquérants, c'est-à-dire les Philistins, sont partis avec l'arche. On lit ça dans 1 Samuel 4, verset 9. Alors, après avoir entendu tous les bruits qu'il y avait dans le camp des Israélites, là, les Philistins ils ont dit au verset 9, 1 Samuel 4, « Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. » Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Quand Dieu dit quelque chose, ça se réalise. Alors, après cette cuisante défaite-là, il y a un messager qui est revenu en courant à Silo annoncer la nouvelle à Élie. On lit ça à partir du verset 16, 1 Samuel 4, 16. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit, « Que s'est-il passé, mon fils? » Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, « Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. » verset 18, « À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinée, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle devait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Ce qui venait de se passer là, c'était quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez grave. L'arche d'Israël vient de quitter Israël. C'est-à-dire, l'arche de Dieu vient de quitter Israël pour passer aux mains des ennemis. Alors, le petit garçon qui était né ce jour-là, il est né où le trône de Dieu a été amené en captivité par les Philistins, d'où son nom, qui veut dire la gloire est que bannie. Ichabod. Parce que la signification des noms hébreux, ça a toujours une, ça veut toujours dire de quoi. Alors ici, on comprend ce qui arrive. Alors la suite du texte nous apprend les conséquences qui sont déroulées dues au fait que les Philistins avaient amené l'arche sur leur territoire à eux autres. Alors vous connaissez toute l'histoire, mais je vais vous la rappeler pour vous rafraîchir la mémoire. Premièrement, on a emmené l'arche de l'Éternel dans une ville qui s'appelait Asdod. Puis là, les Philippiens y ont déposé l'arche de Dieu dans leur temple qui était dédié à, vous rappelez-vous qui? Dagon. Vous avez des bonnes mémoires. Dagon qui était le dieu des Philistins. Alors, le lendemain, après avoir installé l'arche de Dieu, le lendemain, la statue de Dagon est tombée face au sol, bang à terre. Alors, comme si Dagon était prosterné devant l'arche que de Dieu. Alors, les prêtres, ils l'ont pris, ils ont mis la statue en place, puis on est reparti. Le surlendemain, la même chose arrive. La statue est tombée en pleine face, mais ce coup-là, la tête et les deux mains sont brisées. Puis, on lit ça au début de 1 Samuel 5. Ensuite, à Asdod, la situation elle a dégénéré. Les Asdodiens ont été frappés d'hémorroïdes, comme on lit dans le texte, hémorroïdes ou des tumeurs. Là. Il y en a même qui ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être de plaies causées par que la peste. Mais peu importe, la population s'est doutée à ce moment-là que tout ce qui leur arrivait, ça provenait probablement de Dieu, du fait que l'arche était rendue sur leur territoire. Les gens étaient malades, puis tout ça. Alors là, on a décidé d'envoyer l'arche dans une autre ville, une deuxième ville. Cette ville-là, c'est Gath. Mais Gath a vécu les mêmes situations qu'à Asdod. C'est-à-dire, les gens étaient malades, il y avait des hémorroïdes, il y avait toutes sortes de choses. Mais ça ne marchait plus, là, dans la ville. Alors, on a décidé d'envoyer l'arche dans une troisième ville. Cette ville-là, c'était Écron. Mais Écron, quand ils ont su ce qui s'était passé à Asdod puis à Gath, ils ont dit non, nous autres, ça ne nous intéresse pas. On a su par email. On a quand même su que ça va mal été dans ces deux villes-là. On n'est pas intéressé à revivre les mêmes situations qu'eux autres. Alors, ça a pris 7 mois l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, est demeurée sur le territoire des Philistins pendant 7 mois. Après 7 mois, les Philistins ont finalement compris que l'arche devait être renvoyée en Israël. Ça cause bien trop de problèmes ici. Alors, les chapitres 5 et 6 de 1 Samuel nous décrivent tout ça. Là. Je ne vous lis pas tous les textes, parce que ça prendrait trop de temps, mais je vous encourage fortement à lire ça chez vous. Si vous voulez lire un texte qui est captivant, ça en est un, ça. C'est vraiment encourageant de voir comment Dieu prend soin que des siens. Alors, on va aller lire cependant 1 Samuel, chapitre 6, verset 7. 1 Samuel 6, verset 7, ça nous décrit la façon dont les prêtres et les chefs philistins ont décidé de renvoyer l'arche à Israël. 1 Samuel 6, verset 7. Maintenant, faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché, puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas par sa main que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Bad luck. Autrement dit, dans la pensée des Philistins, il fallait savoir, là, c'est Dieu ou le hasard qui a fait que ça nous arrive? Dieu ou le hasard? Mais quand on analyse ça de proche, là, on peut presque dire que les Philistins avaient mis toutes les chances de leur côté pour déterminer si c'était bien le Dieu d'Israël qui était à l'origine de leurs problèmes ou si c'était arrivé par hasard. Puis j'imagine facilement que dans leur esprit, ils souhaitaient pouvoir dire que tout ça est arrivé, c'était le fruit du hasard. La statue de Dagon tombée face au sol devant l'arche de l'Éternel, c'était par hasard. Les différentes populations frappées d'hémorroïdes, c'était par hasard. La terreur mortelle qui s'appesantissait fortement sur les habitants, comme on lit dans 1 Samuel 5, 11, ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. Alors, c'est donc de dire que cette terreur mortelle-là que les habitants éprouvaient, bien, c'était par hasard. C'était du hasard. Alors, probablement que dans la tête des chefs philistins, on souhaitait pouvoir dire au peuple que tout ce qui était arrivé, c'est un accident. Ça ne va pas plus loin que ça. Mais remarquez la manœuvre utilisée par les Philistins. D'abord, ils ont choisi des vaches qui venaient de Vélée. Il y en a beaucoup ici qui méconnaissent ça, parce que vous en avez déjà eu chez vous, là. Moi, non, parce que je suis un petit gars de la ville. Mais une vache qui vient de Vélée, c'est quoi son réflexe premier?
S'occuper des veaux.
Ben, elle va chercher le veau, elle va le licher, puis le veau, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il mugit, puis il a soif, puis il veut voir sa mère. Puis la mère, elle ne le laissera pas s'éloigner d'elle non plus. C'est comme ça que la nature fonctionne. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est comme ça que tous les animaux sur la planète fonctionnent aussi. Une lionne qui vient d'avoir son petit, qu'est-ce qu'elle fait? Ils font toutes la même affaire. Un petit chat qui vient d'avoir son petit, qu'est-ce qu'il fait? Il va lécher, puis il va tout faire, puis le petit il va se coller sa mère. Puis il va boire, puis il va boire, puis il va se nourrir à partir d'elle. Alors, c'est ça que les Philistins ont fait. Quand je vous disais tantôt qu'ils avaient mis toutes les chances de leur bord, là, bien, quand tu dis, on va prendre des vaches qui viennent de Vélée, on va les séparer de leurs petits, enfin. Alors, si on éloigne de son... Si la vache est éloignée de son veau, elle va tout faire pour retourner vers son petit. Ensuite, ils ont choisi des vaches qui n'ont jamais été attelées. On va lui mettre un carcan autour du cou. Ils n'ont jamais été entraînés à tirer un chariot avec un joug. Alors, les deux vaches, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est qu'ils vont lutter, ils vont probablement casser le carcan, parce qu'une va à la gauche, l'autre va à la droite, puis ça va ruer dans les brancards, là, puis ça ne marchera pas. Là. Puis ils ne marcheront pas ensemble, probablement pas. Puis si, au pire aller, ils réussissent à tirer le chariot ensemble, bien, ils vont toujours continuer d'écouter la voix de leurs petits, puis les petits, on les a mis à part, en plus. Alors, les petits, ils vont mugir, là. Puis les mères, ils entendent ça. Puis une vache, c'est quand même assez fort, hein? C'est, j'imagine, juste avoir le coup d'une vache, là, tu t'imagines que si elle décide de tasser à gauche ou à droite, ça va aller à gauche ou à droite. Donc, si le chariot part en direction d'Israël, ça voudrait dire que ça, c'est le signe comme quoi que c'est Dieu qui guidait les vaches, puis que c'était lui qui avait orchestré tout ce qui est arrivé aux Philippiens, aux Philistins, c'est-à-dire depuis la capture de l'arche. Mais c'est quoi les chances pour que ça arrive? C'est probablement ça que les Philistins se sont dit. Comme je vous disais tantôt, ils ont toutes mis les chances de leur côté pour déduire que finalement, les événements qui s'étaient produits, c'est un coup de dé. C'est le hasard. Mais pour avoir dans l'esprit une place pour cette interprétation-là, à savoir que le hasard, c'est quelque chose qui peut exister, pour avoir une place dans notre tête pour ça, il faut être clairement athée. Athée dans le sens que je nie l'existence de Dieu. Si je pense que le hasard existe, il faut dire que ça demande beaucoup, je dirais, de négation en ce qui concerne l'existence de Dieu. Là, vous allez peut-être me dire que les Philistins, eux autres, il y avait un temple, parce qu'on l'a vu, il y avait une religion, il y avait des activités religieuses. Alors, pourquoi penser même ou dire que les Philippiens, moi je me trompe tout le temps, que les Philistins étaient des athées? On va y arriver. Là. Est-ce qu'il y en a qui connaissent R.C. Sproul ici? R.C. Sproul, c'était un brillant professeur de théologie. Puis, il a écrit une centaine d'excellents livres chrétiens. Puis, c'était un très bon ami de John MacArthur. Les deux, là, c'était deux de bons amis. Monsieur Sproul, un jour, a donné un cours sur la théologie de la confession de foi de Westminster. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, la confession de foi de Westminster, c'est considéré comme l'expression mature de la foi réformée. Puis, ça date autour de 1647. Ça veut dire 130 ans après la réforme de Luther en 1517. Où Luther, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, Luther avait écrit 95 thèses contestant les pratiques de l'Église catholique romaine. Il avait planté ça avec un couteau sur la porte de ce qu'une Église catholique romaine, parce que lui-même était catholique romain. Mais après avoir lu les Écritures, il s'est vite rendu compte que ce que la religion enseignait et ce que la Bible disait, il y avait beaucoup de choses qui ne correspondaient pas avec les Écritures. Alors, Luther a parti la réforme, et puis 130 ans plus tard, là, on a émis la confession de foi de Westminster, qui était par écrit toutes les choses qui avaient été découvertes à travers la réforme. Alors, les premières lignes du troisième chapitre de la Confession de foi de Westminster disent ceci. De toute éternité, et selon le très sage et saint conseil de sa propre volonté, Dieu a librement et immuablement ordonné tout ce qui arrive. Ça, c'est ce que la Confession de foi de Westminster dit. De toute éternité, et selon le très sage et saint conseil de sa propre volonté, Dieu a librement et immuablement ordonné tout ce qui arrive. Là, je peux comprendre qu'évidemment, il y en a qui vont pouvoir dire, « Ah, OK, d'abord, tout ce qui arrive de mal, ça va aussi avoir été voulu par lui. » On a tendance, la nature humaine, les êtres humains ont tendance à mettre beaucoup de blâme sur Dieu plutôt que de le mettre sur eux-mêmes. Regardez ce qu'on lit dans Romains chapitre 1, versets 24, versets 26 et verset 28. La même expression elle nous est rappelée trois fois. Romains 1, 24, Romains 1, 26 et Romains 1, 28. On lit, c'est pourquoi Dieu, parce qu'un petit peu plus haut, on voit que les êtres humains sont inexcusables. Après avoir vu tout ce que la nature nous a révélé, puis de nier que Dieu peut être l'auteur de toutes ces choses-là, les êtres humains sont inexcusables. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Ce qu'il faut comprendre de ça, quand on dit Dieu les a livrés, c'est comme si Dieu avait mis sa main un jour, il tenait l'homme, là, mais puisque l'homme ne voulait pas être tenu par Dieu, Dieu les a livrés. Autrement dit, il a enlevé ses mains, puis ils sont tombés, parce que Dieu ne tient plus. Alors, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, parce que de toute façon, c'est ça qu'il voulait faire. Selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 26, on voit un petit peu plus loin. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Là, ici, on a une démonstration assez claire de l'homosexualité. Ceux qui pensent, qui s'imaginent que, finalement, on est venu au monde comme ça. Peut-être, ça se peut, mais c'est pas parce que tu es venu au monde de même que tu ne dois pas lutter contre ce péché perverse-là, parce que c'est un péché. Il faut le voir comme ça, puis tous les êtres humains face au péché, évidemment, quand tu ne connais pas le Seigneur, c'est assez dur de combattre contre un péché, mais quand tu connais le Seigneur, je connais des homosexuels qui se sont convertis, mais ils ont eu une lutte que moi, je n'ai pas. Il y en a qui sont venus au monde. Je ne dirais pas qu'ils sont venus au monde, mais il y en a que, pour eux, mentir, c'était d'une facilité déconcertante. Lorsque tu te convertis, c'est une des choses à laquelle tu es appelé à abandonner. D'autres, c'est voler. Il y en a qui étaient voleurs, mais le jour où tu te convertis, il y a une chose qui devrait arriver, c'est le Saint-Esprit qui te convainc que, regarde, tu ne fais plus ça, là. La vie chrétienne, c'est une vie transformée. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu étais menteur, tu ne mens plus. Tu étais voleur, tu ne voles plus. Tu es homosexuel, tu ne crouses plus les hommes. Tu t'organises pour avoir une conduite droite. Tu pries le Seigneur qui te donne la délivrance de ce péché-là. Et est-ce que Dieu va vous aider? Je ne parle pas à vous, là, mais est-ce que Dieu aide ces gens-là? Si on a besoin d'aide, qu'on demande au Seigneur, il va le faire. Alors, c'est ça, Dieu les a livrés. Ceux qui ne veulent pas d'aide, Dieu les laisse aller. Le verset 28, Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés. Ils ne voulaient pas connaître Dieu. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui s'impose. Dieu n'impose pas sa volonté. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, Dieu n'impose pas sa volonté. Il la présente et libre à nous de l'accepter ou de la refuser. Si on la refuse, ben, l'incrédulité a toujours des conséquences. L'incrédulité, il y a un prix à payer pour ça. Toujours. Donc, R.C. Sproul a demandé aux étudiants qui est-ce qui croyait à la confession de foi de Westminster, ce que je vous ai lu là tantôt, que de sa propre volonté, Dieu a librement et immuablement ordonné tout ce qui arrive. Alors, il y en a beaucoup qui ont levé la main. On croit à ça, nous autres. OK, c'est bon. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait levé la main. Alors, Sproul, il a demandé, combien de vous autres qui ne croient pas à ça? Là, les gens étaient comme un petit peu gênés, mais il y en a qui ne croyaient pas à ça. Alors là, Sproul, il leur a dit, soyez pas stressés, là. On ne sortira pas des allumettes pour vous brûler sur un bûcher. Là. Je veux savoir quels sont ceux qui ne croient pas à la chose que j'ai dite tantôt. Là. Alors là, il y en a qui ont levé que la main. Alors, à ceux-là, Sproul a demandé, OK, maintenant, qui parmi ceux qui ont levé la main pour dire qu'ils ne croyaient pas à ce que j'ai dit tantôt, qui parmi vous se considère comme des athées? Là, personne n'a levé la main. Alors là, le professeur, il lui a dit, je ne comprends pas pourquoi, quand je vous ai demandé qui croyait à ce que j'ai dit tantôt, là, je ne comprends pas pourquoi vous êtes pas, qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que la confession dit, mais qui n'ont pas levé la main quand j'ai demandé qui étaient des athées. Alors, évidemment, plusieurs ont protesté en disant, c'est pas parce qu'on ne croit pas que Dieu ordonne tout ce qui se passe que vous pouvez nous traiter d'athées. Le prof a répondu, bien, c'est pourtant ce que vous êtes. Si vous ne croyez pas que Dieu ordonne tout ce qui se passe, vous ne croyez pas en Dieu. Si Dieu n'est pas souverain, Dieu n'est pas Dieu. Alors, la définition du mot « souverain » dans le dictionnaire, c'est « qui exerce le pouvoir suprême ». Autrement dit, si Dieu n'exerce pas le pouvoir suprême, ce n'est pas Dieu. Si Dieu n'exerce pas, si Dieu n'est pas souverain, on ne pourrait pas avoir la moindre confiance dans le fait qu'il va réaliser les promesses qu'il a faites au sujet de l'avenir. Puis je vais vous lire un des derniers passages de la Bible dans Apocalypse, verset 22, le verset 6, qui dit, là c'est Jean qui parle, il dit, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Quand le Seigneur dit, et voici, je viens bientôt, y en a-tu qui croient à ça? Ardemment? Vous êtes certain que c'est ça qui va arriver? Évidemment, c'est ça qui va arriver. Parce que Dieu l'a dit, Dieu est souverain, et il va réaliser les promesses qu'il a faites au sujet de l'avenir. C'est pour ça qu'on peut conclure que les Philistins étaient des athées. Parce qu'eux admettaient la possibilité qu'un événement de ce monde soit causé par le hasard. Puis le grand message de ceux qui sont athées, c'est-à-dire ceux qui nient l'existence de Dieu, c'est que le hasard a un pouvoir. Le hasard a un pouvoir. Combien il y en a sur cette planète-là qui croient qu'on n'a pas besoin d'attribuer la création de l'univers à Dieu. En tout cas, Charles Disser, lui, c'est ça qu'il croit. Il y en a beaucoup. Selon eux, l'univers est né de l'espace, du temps, parce que quand on entend dire depuis des milliards d'années, bon, alors l'univers serait né de l'espace, du temps et du hasard. Le hasard, c'est rien. Il n'y a aucun pouvoir pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'être. Donc, il ne peut exercer aucune influence sur quoi que ce soit. Puis, il y a plusieurs scientifiques, des gens très instruits, qui déclarent avec le plus grand sérieux que l'univers a été créé par hasard. Ça revient à dire que rien a causé quelque chose. Rien a causé quelque chose. Il y a des gens instruits, brillants, intelligents, qui croient ça et qui veulent vous faire croire à ça. Tout a une cause et la cause ultime, c'est Dieu. Le seul qui a pu créer quelque chose à partir de rien, c'est qui? Genèse nous dit ça. Dieu dit que la lumière soit. Comment est-ce fait pour créer la lumière? L'être humain, pour créer quelque chose, il va servir d'autre chose. Mais Dieu, il crée avec rien. Tout a une cause et la cause ultime, c'est Dieu. Alors, quand les Philistins ont laissé partir les vaches, puis que les vaches ont pris directement le chemin de Beth-Shebetch, elles ne se sont pas détournées ni à droite ni à gauche, malgré le fait qu'elles n'avaient jamais été attelées ensemble, malgré le fait qu'elles voulaient sûrement retourner vers leur veau qu'elles entendaient gémir. Elles sont allées droit vers Israël. Tout ça est arrivé par hasard. Évidemment que non. Les Philistins ont su que c'est la main de l'Éternel qui les avait affligés. Puis, ils ont dû reconnaître que finalement, puisque les vaches prennent ce chemin-là, on a quasiment tout fait pour mettre les chances de notre bord. Ça ne marche pas, c'est Dieu qui a agi. Est-ce que dans ma vie, tout ce qui m'arrive, ça vient de Dieu ou du hasard? Alors, j'espère que les Écritures vont nous avoir donné la réponse à cette question-là, qui, des fois, peut être troublante, là, mais... Sachons que pour le chrétien, le hasard, c'est quelque chose qui n'existe pas. Dieu agit. Des fois, Dieu permet. Ce n'est pas parce qu'il voulait, mais lorsque je m'entête à vouloir désobéir, bien, Dieu, il va faire ce qui est écrit. Il va enlever ses mains. Il va nous laisser choir, parce que de toute façon, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas de lui. On va avoir du fun, on va avoir du plaisir, pensant que c'est ça qu'il va nous donner, bon. Mais il va nous laisser tomber parce que c'est ça qu'on voulait avoir. Alors que le Seigneur nous aide à vraiment serrer la parole de Dieu dans nos cœurs avec toute la force qu'on a, puis croire à ce que Dieu dit. Amen.
Amen.
Seigneur grand Dieu, encore une fois, on est tellement heureux d'avoir ce privilège immense de sonder les Écritures jour après jour pour entendre ta voix, pour se laisser diriger par toi. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu nous as donné. Merci pour ton esprit qui nous aide à comprendre, à bien interpréter ce que tu nous dis. Et que ton nom, que le nom du Seigneur Jésus-Christ, soit glorifié à travers tous les âges et à travers nos vies. Et c'est pour sa plus grande gloire que nous te le demandons. Amen.